Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion.
Merci de t'installer.
Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. Bienvenue dans Au cœur du savoir.
Au cœur du savoir.
Le podcast de l'ICP.
Prions ensemble.
Aujourd'hui, on compte en France 13 374 prêtres.
Que ta grâce ne nous abandonne.
Alors qu'ils étaient deux fois plus nombreux il y a 20 ans. Et parmi eux, beaucoup doivent s'occuper de plusieurs paroisses. C'est ce que l'on peut qualifier de métier en tension, pour reprendre une expression courante. Mais comment devient-on prêtre ? À quoi le prêtre occupe ses journées du lundi au dimanche ? Au cœur du savoir vous propose dans ce nouvel épisode de découvrir cette vie singulière en compagnie de Cédric Burguin.
Je suis à la fois le vice-recteur du séminaire des Carmes et puis je suis professeur de droit canonique à la faculté de droit canonique.
Pour devenir prêtre, la vocation ne suffit pas. Comme pour tout autre métier, il faut suivre une formation.
La question principale qu'on se...
Et celle-ci est très pointue. Tout d'abord, elle se déroule dans un lieu particulier, le séminaire. C'est à la fois un lieu d'études et de vie en communauté, comme une sorte d'internat, accessible dès l'âge de 18 ans. Mais en réalité, les séminaristes y entrent souvent un peu plus tard, après avoir fait des études supérieures ou commencé une carrière professionnelle. C'est généralement entre 25 et 30 ans, voire un peu plus, qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Leur formation dure en moyenne 6 ans. Elle est définie par le Vatican, puis adaptée aux spécificités françaises, par la Conférence des évêques de France. Pour se préparer à leur futur métier, les séminaristes suivent une formation théorique et pratique. Ils étudient la philosophie, la théologie, la vie pastorale et effectuent des stages sur le terrain.
Pendant toutes leurs années de formation, leur est attribuée une paroisse qui change en général tous les 2-3 ans pour qu'ils aient plusieurs lieux de stage. Et en fait, cette paroisse, ils la rejoignent notamment les week-ends et puis parfois pour des activités en semaine, des activités dans lesquelles ils sont engagés. Dans les premières années de la formation, j'allais dire, on commence par les choses un peu plus simples comme l'aumônerie, la catéchèse. Et puis plus on avance dans la formation, plus le séminariste se voit confier des responsabilités.
Et son séminaire, on ne le choisit pas. On ne décide pas comme ça d'aller étudier dans le sud pour profiter du soleil et de la mer. Non, non, non. Quand un jeune homme souhaite répondre à sa vocation et devenir prêtre, il s'adresse à un évêque qui est en charge d'un diocèse. C'est lui qui l'envoie dans un séminaire de son territoire. Et il faut que le candidat à la prêtrise choisisse bien dès le départ vers quel évêque il se tourne. Car une fois ordonné prêtre, il officiera dans ce diocèse et n'aura pas forcément la possibilité d'en changer. Généralement, les candidats à la prêtrise s'adressent à l'évêque de leur région d'origine, à celui de la région où ils ont fait leurs études supérieures ou alors commencé à travailler.
Parfois, des prêtres se sentent appelés à aller rendre un service dans un diocèse qui est plus en pénurie, ou alors parfois les diocèses font appel. Et donc, il peut y avoir des prêts d'un diocèse à l'autre où, en fait, un prêtre va rendre service pendant quelques années dans un autre diocèse.
Un peu comme au football, en somme. Mais au fait, c'est quoi la différence entre un prêtre et un curé ? Pourquoi utilise-t-on deux mots différents ?
Le prêtre, c'est l'homme qui a reçu le sacrement de l'ordre. Il est ordonné prêtre. Par contre, le curé, c'est une fonction particulière au sein d'un diocèse. Et le curé, c'est celui qui est responsable d'une paroisse.
Un prêtre peut donc recevoir d'autres missions que celle de s'occuper d'une paroisse. Il peut ainsi avoir une mission d'aumônier d'hôpital ou de prison, être vicaire, c'est-à-dire être l'adjoint d'un curé, ou encore enseignant. Il existe donc beaucoup de façons de vivre sa vocation. Faisons un zoom sur le curé maintenant. Une fois nommé à la tête d'une paroisse, comment occupe-t-il ses journées ? Que fait-il lorsqu'il ne célèbre pas la messe du dimanche ? Eh bien, rassurez-vous, il est très occupé, et d'autant plus avec la pénurie de prêtres. Il peut se retrouver en charge de plusieurs paroisses, et en dehors de la messe, de nombreuses actions lui sont attribuées. Être curé, c'est accepter d'être au service des autres et de travailler 7 jours sur 7.
La vie paroissiale, elle est multiple. Vous avez toute la partie de catéchèse, qui est d'éducation dans la foi des jeunes et des moins jeunes. Vous avez ensuite tout le service de charité. Vous avez ensuite toute la dimension qu'on appelle la dimension sacramentelle et liturgique, c'est-à-dire la préparation des différents sacrements. Alors, il y a la messe du dimanche qu'on connaît bien, mais la préparation au baptême, la préparation au mariage. Il y a toute la pastorale des funérailles. Vous avez aussi un certain nombre d'activités à destination des malades.
Et le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça marche aussi pour les prêtres ? Jusqu'en 1905, date de la loi de séparation de l'Église et de l'État, les prêtres étaient payés par l'État. Depuis cette date, ce n'est plus le cas, puisque la loi a mis fin au financement public de tous les cultes, sauf en Alsace-Moselle. Le prêtre reçoit donc un traitement versé par son diocèse de rattachement, soit 1000 euros par mois. Mais il bénéficie d'autres avantages.
Le logement, par exemple, est assuré par la paroisse et le diocèse. Le prêtre n'a pas de loyer à assurer, vous voyez ? Et donc il y a un certain nombre de charges que le prêtre n'a pas à supporter, contrairement à un laïc. En général, les diocèses ou l'institut de mission dans lequel on est envoyé assurent le traitement du prêtre. Tout ça est organisé à l'échelle des diocèses, mais aussi à l'échelle de l'Église de France, pour qu'il y ait une forme d'égalité de traitement entre les prêtres français.
Autre question RH, comment peut-on évoluer hiérarchiquement au sein de l'Église ? Comment devient-on évêque lorsqu'un évêché se libère, par exemple ?
Ce n'est pas le prêtre qui propose d'être évêque, ce sont les évêques eux-mêmes qui discernent dans leur diocèse ou ailleurs d'ailleurs. Ils proposent des prêtres à l'épiscopat. Et en fait, ces prêtres sont proposés via le nonce apostolique en France, qui est un peu l'ambassadeur du Saint-Siège auprès d'un pays. Les prêtres font remonter des noms de prêtres dont ils pensent qu'ils auraient les capacités pour. Le nonce fait une enquête assez approfondie sur ce prêtre, en secret.
Au terme de cette enquête, le nonce établit une liste de 3 noms qu'il transmet à la curie romaine. Un nouvel examen des profils retenus est effectué, et au terme de toutes ces recherches, la liste de noms est transmise au pape, par ordre de préférence. Et c'est lui qui fait son choix pour nommer un prêtre à la tête d'un évêché. Bien sûr, un prêtre reste libre d'accepter ou non cette nomination. Mais généralement, cette nouvelle mission est acceptée. Ça vient du pape quand même. Comme vous avez pu le constater, prêtre, c'est un métier très exigeant. D'autant plus que l'âge de la retraite s'établit à 75 ans. Mais toutes les missions du prêtre peuvent être revues en accord avec l'évêque pour alléger sa charge de travail en fonction de ses capacités physiques notamment. Enfin, pour terminer, sachez qu'il existe des maisons de retraite pour les prêtres.
Les diocèses s'engagent au moment de l'ordination du prêtre, à s'en occuper jusqu'à la fin de ses jours.
Voilà, vous savez tout maintenant sur la vie d'un prêtre. Une vie qui est surtout l'histoire d'une vocation. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Ce podcast a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Enchanté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir.
Au cœur du savoir.
À la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.